Alexandra Ben Saïd.
Il faut quand même être sincère, réaliste. Bien sûr que toutes ces dépenses, c'est un pognon de dingue. Et quant à dire que ça sort les gens de la pauvreté... Bon d'accord, quelques-uns, par exemple Zizou, qui vivait à la Castellane, quartier nord de Marseille, ou encore Messi, mère femme de ménage, père ouvrier, il gagne aujourd'hui 100 000 euros par jour. Mais oui, je parle football, quoi d'autre? Je sais bien que derrière le poste, une bonne partie d'entre vous a déjà enfilé son t-shirt floqué. Et à ce sujet, le contrat de Ronaldo avec Nike, c'est 20 millions d'euros par an. Donc, le pognon de dingue, c'est clair. Regardez les classements de Forbes dans les 5 sportifs les mieux payés de la planète en 2018. 3 footballeurs, Messi, Ronaldo et Neymar. Le foot, la Worldwide Company, le happening mondialisé, ça s'est accéléré ces 5 dernières années. Les annonceurs se battent, les droits télé explosent, les clubs s'enrichissent, les investisseurs des Qataris, des Chinois arrivent et les enchères pour les meilleurs joueurs montent de plus en plus haut.
Bah c'est comme ça, c'est le foot.
Ouais, tu l'as dit ma bonne dame.
Eh oui ma pauvre Michel.
Et est-ce que le modèle économique est soutenable? C'est une vraie question. Est-ce que c'est une bulle? Question pas très importante au final, parce que même si les clubs faisaient tous faillite en même temps, les conséquences pour l'économie ne seraient pas bien graves. Dernière question, est-ce que la Coupe du Monde de foot en général et le match de midi en particulier peuvent avoir un quelconque impact sur l'économie? Alors là, ce qu'on a observé pour tous les grands événements sportifs, c'est d'abord une augmentation des violences conjugales, de l'absentéisme au bureau et la baisse du volume des transactions boursières. Mais côté positif, on devrait voir du bonheur supplémentaire de façon éphémère, ce qui peut être bon pour la croissance. Oui, madame, monsieur, les économistes l'ont mesuré, parce que de mon point de vue, c'est ça le merveilleux de l'histoire. Il y a une économie du bonheur et il y a même une économie des émotions.
Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh, c'est pas vrai!
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
En France, la plus connue de nos économistes du bonheur, elle s'appelle Claudia Senic et on la salue. Je voudrais citer le livre de Luc Arondel et de Richard Duhautois, L'argent du football, que j'ai lu in extenso hier, c'est passionnant. Aux éditions CEPREMAP, on va vous mettre la référence sur la page de l'émission. Bienvenue, voici le magazine de l'économie comme on la vit, dans le monde réel, devant sa télé, réalisé par François Audouin. Raphaël Couder est attaché de production ce matin à la technique. C'est Vincent Godard qui nous accompagne. Bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel Le Chypre, BFM Business.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Bon, le football.
Moi j'étais content d'apprendre dans votre billet que Ronaldo avait touché 20 millions de la part de Nike. Ça va
contrat à vie,
au moins pour cette année, ça va lui permettre de payer les 18,8 millions qu'il doit au fisc portugais pour fraude fiscale. Et puis ça va peut-être mettre un peu de beurre dans les épinards pour les 2 ans de prison avec sursis qu'il a eu.
Du coup, il a échappé à la prison ferme. Mais ça, c'est un autre sujet.
Non, il était bien votre billet, Alexandra. Il était bien, mais il manque dans ce billet quand même le footballeur le plus riche du monde, qui n'est ni Ronaldo, ni Messi, ni Neymar, c'est un Marseillais, figurez-vous.
Ah, c'est déjà une très bonne chose.
Voilà, je sais que ça vous fait plaisir. Il s'appelle Mathieu Flamini. Vous le connaissez pas? Bah non, vous intéressez pas au foot, évidemment. C'est un joueur qui a quand même joué au Milan AC, qui a joué à Arsenal. Et pourquoi il est le footballeur le plus riche du monde? Et ben, parce que quand il a joué en Italie, il y a une dizaine d'années, il s'est associé avec un entrepreneur pour monter une start-up qui travaille sur, les carburants alternatifs au pétrole, que cette start-up est une formidable réussite et qu'aujourd'hui, Mathieu Flamini est milliardaire. Donc, vous voyez, il y a des footballeurs qui peuvent devenir très riches, pas seulement en jouant au football.
Oui, avec une start-up. Mais vous nous en apprenez des choses. Très bien. Merci Emmanuel Le Chypre. Christian, il paraît que vous avez dit le fisc portugais à propos de notre ami, c'est le fisc espagnol.
Bien sûr.
Le débat ce matin, consacrons-nous un pognon de dingue. On arrête le foot, hein. Consacrons-nous un pognon de dingue pour finalement ne pas réussir à sortir les gens de la pauvreté. Nous parlons des minima sociaux. Et on en a appris plus cette semaine sur la conception du modèle social d'Emmanuel Macron. On se retrouve, messieurs, dans quelques instants. Le temps de dérouler le programme, nous parlerons ce matin dans le Mag Éco de la publicité. Saviez-vous que les panneaux d'affichage commencent à nous regarder, à nous reconnaître, à nous compter? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo sur les nouveaux territoires de la pub. Et le patron de l'agence Babel sera là aussi pour prolonger la discussion, les défis de la pub, les relations des consommateurs avec les marques. Laurent Habib, invité du Mag Éco, ça sera vers 9h45. juste avant 10h, le moment Foulon, ma vie au boulot. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, ah bah on y revient. Oui, une question sur les paris sportifs.
Évidemment, le foot, Christina voit ses collègues parier sur les matchs, mais a-t-on le droit d'organiser des jeux d'argent sur le lieu de travail?
Ah, très bonne question, on se l'est posé ici aussi. À tout à l'heure Sandrine, tout de suite, ce qu'il faut savoir avant de parler pognon et pauvreté.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
N'arrête pas l'écho. Le débat.
Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif.
Emmanuel Macron, président de la République.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Trop de pognon. De quel pognon parle-t-il? Du nôtre, du vôtre.
Benoît Hamon, fondateur de Génération.
Vous cotisez pour pouvoir avoir une retraite, pour pouvoir être indemnisé le jour où vous êtes au chômage. Vous cotisez, cet argent est le vôtre. Et s'il remet en cause demain cette protection sociale, cela veut dire qu'il ponctionne directement dans votre salaire.
Quand on dit on dépense un pognon de dingue sur les minima sociaux, pour pas de résultat, c'est pas vrai.
Jean-Charles Simon, économiste.
Si l'objectif c'est d'avoir un écart de revenus relativement modeste entre par exemple le premier décile et le neuvième décile, c'est réussi. L'exception française qui fait qu'on est à 32-33% de dépenses publiques sociales sur le PIB, c'est parce qu'on veut faire pour tous les revenus moyens et supérieurs de la redistribution obligatoire.
Il faut reconnaître que derrière des intentions positives, il y a des aides qui sont contre-productives.
Sacha Houlier, député La République En Marche.
C'est-à-dire qu'elles vont créer des trappes à pauvreté, des trappes à inactivité, et finalement, ne pas permettre aux gens de s'en sortir.
Ce qu'il nous faut faire, c'est réinvestir dans la personne, c'est accompagner davantage, c'est responsabiliser plus, et non pas considérer que la seule réponse, c'est l'argent de la collectivité. Il nous faut sortir, sur tous ces sujets, d'une logique de guichet, pour une logique d'accompagnement.
Mais moi, je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser les pauvres.
Laurent Berger, secrétaire général CFDT.
Je vais vous dire franchement, je ne connais pas une personne qui se satisfait d'être en situation de pauvreté. J'en ai jamais vu. J'ai vu des gens qui, parfois, n'étaient plus accompagnés, se désespéraient et n'arrivaient plus à trouver le ressort pour s'en sortir. Et cela, ça nécessite des moyens en termes d'accompagnement.
L'idée pour moi du programme de Macron, c'était je libère l'économie pour qu'on innove davantage, mais en même temps, je vais généraliser la protection sociale. Tout ça doit se faire.
Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France.
Si on fait du Thatcher, on obtient le Brexit. Si on fait du Reagan, on obtient Trump. Et il ne faut pas faire la même chose chez nous.
Un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, est-ce que c'est globalement vrai? On va détailler. Ou globalement faux, Emmanuel?
C'est globalement vrai qu'on dépense beaucoup d'argent, hein, si vous prenez l'ensemble des prestations sociales. Alors, au sens large, hein, parce qu'il a dit l'ensemble des prestations sociales.
Alors, il a dit deux choses. Là, je parle des minima sociaux.
Les prestations sociales dans son ensemble, c'est à peu près 700 milliards d'euros, mais là-dedans, il y a la santé, il y a les retraites, etc. Si on se cantonne sur un champ plus restreint, qui est celui vraiment des aides sociales, on est plutôt sur une centaine de milliards d'euros. Donc oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est parfois un peu plus que ce qu'on dépense à l'étranger. On pourra revenir sur les chiffres, mais ça produit quand même des résultats, incontestablement.
Christian Chavagneux.
Si on prend les dépenses sociales dans son ensemble, c'est à peu près un tiers, l'équivalent d'un tiers de la richesse produite, un tiers du PIB. Si on prend les dépenses,
700 milliards donc.
700 milliards, mais si on les prend par habitant, parce qu'il faut quand même aussi comparer ce qui est comparable avec la taille des populations, la France est cinquième rang au niveau européen, derrière l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et l'Espagne. Donc on n'est pas les sur-dépensiers en termes sociaux, on pourrait faire mieux. Si on se concentre vraiment sur les minima sociaux, c'est-à-dire le RSA qu'on donne à ceux qui n'ont rien, la prime d'activité pour ceux qui commencent à travailler mais qui ne gagne pas assez, là on est plutôt sur 25 milliards d'euros par an et en gros c'est 1% du PIB, donc vraiment c'est pas énorme.
La pauvreté, je voudrais qu'on fasse la photo, combien, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est on n'arrive pas à sortir les gens de la pauvreté, donc aujourd'hui la pauvreté en France c'est combien de millions de personnes, quelle proportion de la population, Christian?
Alors, la pauvreté, il y a plusieurs façons de la mesurer, en France traditionnellement c'est les gens qui gagnent moins que 60% du revenu médian. Le revenu médian c'est la moitié des Français gagnent plus, la moitié des Français gagnent moins, donc quand on prend ça, on a 8,8 millions de personnes qui sont vraiment dans une situation
donc,
de pauvreté.
Donc on est à 1015 euros, c'est ça le seuil de pauvreté?
C'est plutôt autour de 1000 euros. Ouais. Les deux plus gros groupes, c'est avec environ 20% chacun, c'est les couples avec plus de 3 enfants et les personnes seules. La moitié ont moins de 30 ans. Un tiers ont moins de 20 ans. Donc la situation des pauvres, oui, il y a des retraités qui sont dans des situations difficiles, mais le gros contingent des pauvres en France, c'est plutôt des jeunes.
Emmanuel Le Chypre, on n'arrive pas à empêcher les gens de tomber dans la pauvreté, on n'arrive pas à les aider à en sortir, c'est ça?
Alors, la caractéristique un petit peu du modèle français, c'est que si vous regardez ce qui se passe avant aide sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelle avant redistribution, la France aujourd'hui est un des pays dans lequel les écarts entre les plus bas revenus et les plus hauts revenus sont les plus importants. En revanche, quand vous corrigez des effets de la redistribution, c'est un des pays dans lequel les écarts sont les moins importants. Donc cette redistribution, elle a quand même des effets. S'il n'y avait pas de redistribution, vous auriez aujourd'hui 22% des Français qui seraient considérés comme pauvres. Avec la redistribution, vous en avez 14%. Donc ça veut dire qu'il y a 5 millions de Français qui sont quand même maintenus hors de la pauvreté par ces aides sociales. Et puis, il faut regarder aussi par rapport à ce qui se passe en Europe. Et quand vous regardez par rapport à ce qui se passe en Europe, alors, comme l'a dit Christian, comme c'est vrai que le seuil de pauvreté est défini en fonction du revenu médian, si vous regardez en euros, le seuil de pauvreté n'est pas le même dans tous les pays européens, ce qui complique un peu la lecture. Mais globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ça c'est les statistiques de la Commission européenne, le niveau de pauvreté est le plus bas en Europe, derrière des pays comme les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark, mais qui sont des petits pays. Ça veut dire que si on prend les grands pays de l'Union européenne, la France est objectivement le pays dans lequel le niveau de pauvreté est aujourd'hui le plus faible.
Christian Chavagneux.
Oui, la France comporte beaucoup moins de pauvres que le reste des pays développés. Il y a 16,5% de pauvres en Allemagne, il y en a 17,3% en moyenne dans l'Union européenne. Emmanuel l'a dit, en France on est plutôt à 14%. Et on est le pays où le niveau de vie moyen des pauvres est le plus proche du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que nos pauvres sont moins pauvres que les pauvres des autres pays. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté que mesure la Commission européenne ou le CDE, je ne sais plus. Mais ça veut dire que nos pauvres, bah, grâce au système social, grâce à la redistribution, ils sont mieux lotis, si je puis dire, que ceux des autres pays européens.
Alors, sachant que le sujet, c'est aussi, une fois qu'on est pauvre, comment on en sort ou où est-ce qu'on y reste très longtemps.
C'est ce qu'il y avait dans la petite vidéo Twitter, c'est on dépense beaucoup d'argent. Alors ça, vous nous avez dit quand même qu'on dépense pas tant d'argent que ça. Vous nous dites qu'on arrive à empêcher des gens de basculer.
Donc c'est deux mensonges du président déjà. Il a dit ça coûte cher, c'est pas vrai, c'est inefficace, c'est pas vrai. C'est ce qu'on vient de dire tous les deux.
Hein. Alors, vous êtes d'accord là-dessus tous les deux. En revanche, Emmanuel, une nuance sur
non.
Pour sortir les gens de la pauvreté.
C'est ça,
son exemple du RSA.
Je crois que c'est ça le sujet. En fait, il faut voir, si vous regardez en France les générations, vous apercevez que globalement, vous avez 25% des Français qui subissent un déclassement par rapport à leurs parents, vous en avez 25 qui subissent une augmentation de leur catégorie sociale et vous en avez 50 qui ne bougent pas. Et alors, il y a une étude qui a été publiée hier par l'OCDE et qui justement, encore une fois, faut toujours ramener aux comparaisons internationales. Et elle nous dit quoi, cette étude? Elle nous dit qu'il faudrait en France 6 générations, c'est-à-dire 180 ans, pour que le descendant d'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. 6 générations, c'est plus quand même que la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 5 générations, sachant que là-dedans, les champions, c'est les pays scandinaves dans lesquels il faut à peu près 2 à 3 générations seulement pour que quelqu'un de pauvre atteigne le niveau de vie de la moyenne et que les pires, ce sont des pays d'Amérique latine. Donc on voit bien quand même que la France n'a pas une bonne performance en matière de mobilité sociale.
Vous êtes en train de nous parler, c'est le retour de l'ascenseur social ça.
Bah, l'ascenseur social, c'est vrai que quand vous faites les comparaisons international, on voit que l'ascenseur social en France, eh ben, il ne fonctionne pas.
Alors comment Emmanuel Macron veut relancer l'ascenseur social si on vous suit? Lui, il dit il faut responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Il ne faut pas avoir seulement une réponse financière. Il faut émanciper par le travail. Là, le spécialiste de l'économie politique Christian Chavagneux, que veut faire
le
chef de l'État?
Les pauvres, ils sont tellement irresponsables qu'en gros, il y a 30% de gens qui ne vont même pas demander les aides. Vous voyez, c'est complètement
C'est l'ironie. C'est le non-recours.
Okay. C'est le non-recours. 30% de non-recours pour le RSA, ce qui permet quand même d'avoir, je rappelle, le RSA aujourd'hui c'est 551 euros par mois. Alors quand vous avez le droit au RSA, vous avez le droit à d'autres aides, notamment des aides au logement, ce qui fait que vous avez à peu près entre 800 et 900 euros par mois. Emmanuel Macron nous dit, 800 à 900 euros par mois, on reste tranquille à la maison, rien faire, on ne cherche pas du travail. C'est complètement, mais je ne sais pas dans quel monde, je sais dans quel monde il vit le président de la République. Il ne vit pas du tout dans la France, pourquoi? Parce que les jeunes et les femmes acceptent des petits boulots mal payés, c'est ça la réalité, pratiquement. La moitié moitié des chômeurs aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle les catégories B et C, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé un peu moins de temps par semaine, un peu plus de temps par semaine, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à travailler vraiment tout ce qu'ils veulent travailler, et leur nombre a doublé en 10 ans. Donc c'est aussi, les gens restent pauvres parce qu'on ne leur donne pas des emplois qui leur permettent de sortir de la pauvreté. Alors avant le RSA, ça s'appelait le RMI, le revenu minimum d'insertion, donc l'étude date un peu parce que c'était sur les gens qui étaient au RMI, mais en tout cas cette étude sur les bénéficiaires du RMI, elle nous disait quoi ? C'est des gens actifs dans la recherche d'emploi, qui refusent rarement un emploi, et encore plus rarement pour des motifs financiers. Donc cette image de la pauvreté où les gens restent tranquilles à toucher les minima sociaux, je ne sais pas où le président de la République a été chercher ça, mais c'est le troisième mensonge du président de la République.
Emmanuel Le Chypre.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, je pense qu'il y a un procès qui est fait à Emmanuel Macron sur cette idée qu'il faut laisser les pauvres se débrouiller tout seuls, etc. Et qu'en gros...
C'est pas qu'il faut laisser se débrouiller tout seuls, il faut les emmener au travail.
C'est quand même une vision, on lui prête une vision extrêmement libérale qui n'est
pas... Qu'il a dit, Emmanuel, non,
qui n'est il pas, a dit, il a dit qui n'est il faut pas faire pensée. Plus d'accompagnement, la réponse financière. Excusez-moi, je fais juste le verbatim, je ne suis pas dans la prise de position.
On voit bien
que c'est
la clé.
Plus d'accompagnement.
On voit bien que c'est la clé, entre parenthèses. Quand vous prenez des départements différents qui distribuent, par exemple, les minima sociaux, vous voyez que dans les départements où vous n'avez pas d'accompagnement, prenez par exemple les Bouches-du-Rhône, le résultat en matière d'insertion est terrifiant. Donc, oui, l'accompagnement, c'est la solution. C'est pas toute la pensée d'Emmanuel Macron, c'est pas libéral. Et je pense qu'il faut revenir deux secondes sur cette fameuse notion d'égalité des chances, parce que c'est quand même ça la
l'émancipation,
la philosophie d'Emmanuel
l'égalité
Macron.
Des chances.
L'émancipation,
ouais.
Ça vient de très loin. Hein. Déjà, on nous disait Condorcet disait, c'était en 1791 que voilà, il fallait que les termes d'égalité réelle, ils commencent là. Après, vous avez les travaux d'Armatia Sen dans les années 60-70 qui disent attendez, ça suffit pas de considérer qu'on résout les problèmes d'inégalité des chances en faisant de la redistribution. Parce que même si vous donnez la même somme à des catégories sociales différentes, elles n'en feront pas le même usage et elles n'auront pas la même possibilité de choix au final. Le socialisme de l'émancipation, c'est Dominique Strauss-Kahn dans les années 2000, etc. Donc ça vient de loin, et ça vient quand même de cette idée que c'est pas avec la redistribution qu'on résout les problèmes. En gros, la redistribution, si vous voulez, c'est l'infirmière qui vous donne l'aspirine pour calmer votre douleur. Mais c'est pas le médecin qui vous soigne. Et le médecin qui vous soigne, ça passe quand même, que Christian le veuille ou non, par le retour massif au travail, parce que c'est quand même ça le premier facteur d'insertion. Et alors après, avec tout ce qui en découle, la formation, l'éducation qui joue évidemment...
Mais on voit bien qu'il y a une logique d'économique pour financer cet accompagnement, ne serait-ce que pour financer tout ce qu'il dit.
Mais tous les pays scandinaves, l'éducation, si performants.
Il y a une logique d'économie.
Qu'est-ce que veut faire le gouvernement ? Rappelez-vous quand même la séquence gouvernementale de ces dernières semaines. Au début, vous avez Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui disent « il y a trop d'aide sociale en général ». Tollé. Donc Darmanin dit, non, les gens cassés par la vie, je cite, on va continuer à les aider. Ça veut dire quoi? Les handicapés, les personnes âgées dépendantes, les parents isolés, on va pas toucher. Qu'est-ce qui restait? Il restait le RSA et la prime d'activité. Le RSA pour les plus pauvres, la prime d'activité. Darmanin nous dit, ça coûtait 4 milliards, maintenant ça coûte 6 milliards, c'est inefficace.
Mais là, il a retrouvé ses vieux réflexes de droite.
C'est l'inverse. Le fait de passer de 4 à 6 milliards, c'est parce que la procédure est plus simple que les mécanismes antérieurs, donc il y a moins de non-recours. Et deux, ça accompagne les gens qui reviennent dans l'emploi, mais comme ils sont mal payés, ça veut dire que il faut les aider plus, mais ça veut dire quoi? Que les gens reviennent dans l'emploi, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ils ne restent pas dans la pauvreté. Emmanuel nous dit c'est l'emploi. Les gens, ils reviennent dans l'emploi. Et après, le président de la République, quand il nous dit ça suffit pas de la redistribution monétaire, c'est que c'est pas soit on les aide avec de l'argent, soit on les accompagne dans l'emploi. Il faut faire les deux. Il faut d'abord les sortir de la mouise dans laquelle ils sont.
Il n'a pas dit autre chose.
Oui, mais quand on lit bien le texte, quand on regarde bien la vidéo du texte à la mutualité à Montpellier jeudi dernier,
on met trop de pognon, on déresponsabilise. On est dans le curatif. Il y a
bien
on met
trop de
pognon.
Dit,
non mais ça c'est pas
comme
pas
il veut couper
de
dans les dépenses publiques.
Ça,
comme il veut couper dans les dépenses publiques, il va couper la prime d'activité. On lui a dit non, finalement on n'y touche pas. Il va couper quoi? Dans le RSA. Et à l'inverse, il dit mais attendez, je vais faire d'autres politiques. Les demi-classes de CP dans les EP, ok. Mais Louis Morin, qui est le directeur de l'Observatoire des inégalités, nous dit ça concerne 8% des classes et un quart des plus démunis. Et à côté de ça, les aides au logement c'est énorme. Et l'année dernière on avait quoi? 5 euros, juste fini Emmanuel, 5 euros de moins pour les aides au logement. Et cette année beaucoup plus malin le gouvernement. Il nous dit « Ah, mais cette année, je fais rien sauf qu'il désindexe les aides au logement de l'évolution des prix. » Et donc, ça veut dire quoi? 1,8% d'augmentation en moins sur une aide au logement à peu près...
Non mais...
Attendez, je finis sur une aide au logement...
Allez-y, mais il reste 30 secondes.
À peu près 231 euros, ça veut faire qu'ils vont baisser les aides au logement cette année de 4 euros. Mais cette fois, on ne l'annonce pas, beaucoup plus malin.
Non, mais
d'un côté, on va aider les pauvres, de l'autre côté,
on leur coupe encore
les aides au logement.
Je pense qu'on lui fait un mauvais procès sur sa vision et sur les intentions. Moi, ce qui m'a gêné dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne nous donne pas la queue d'une piste sur la façon dont on va vers cette fameuse égalité réelle. Alors, on nous promet, oui, il va y avoir réforme des retraites, oui, il va y avoir des choses sur l'éducation, la formation, mais je veux dire, sur la santé, par exemple, dont on n'a pas encore parlé.
Bah si, c'est, le reste à charge zéro.
Oui, mais c'est pas avec le reste à charge zéro, qui est très important pour un certain nombre de familles, qu'on va résoudre les problèmes d'accès aux soins, etc., etc. Donc, je trouve que pour le moment, l'arsenal qui nous est présenté pour résoudre tous ces problèmes
pour réinventer les approvisionnements
est extrêmement faible, et que je suis d'accord avec Christian sur ce point. On attend d'avoir les réponses, et pour le moment, on a eu droit qu'à une espèce de programme de travail, mais on n'a pas beaucoup de réponses sur toutes ces pistes.
Mais c'est pour
qui
ça
sont quand
qu'on
même
est là chaque semaine,
intéressantes
Emmanuel.
Philosophiquement.
Merci, allez, on referme ce dossier puisque chaque semaine nous y revenons et on essaie de trouver les pistes et les indices. L'économie comme elle se passe ailleurs. Ce matin, je vous propose de partir nous détendre ensemble au Canada.
Le gouvernement Trudeau veut rendre le Canada plus sécuritaire en légalisant le cannabis à usage récréatif.
Bonjour Pascal Guéricola.
Bonjour Alexandra.
Pascal, le Canada, oui, est en train de légaliser le cannabis à des fins récréatives et plus seulement thérapeutiques. Ça doit se concrétiser cet été et le Canada deviendra ainsi le premier pays du G7 à franchir le pas. L'objectif affiché, c'est de protéger les jeunes. Ce faisant, il faut réglementer le marché pour en sortir les trafiquants et il faut donc tout inventer, hein, les nouveaux canaux de production, de distribution et de vente.
Oui, exactement. Et ce qui complique un peu plus l'affaire, c'est que le Canada étant un pays fédéral, une partie de l'application de la nouvelle législation revient aux provinces. Alors, par exemple, le gouvernement central décide de la légalisation de cette drogue, mais sa vente incombe au Québec, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux autres, tout comme le volet prévention. Alors, par exemple, au Québec, ça va être une filiale d'État qui va gérer la vente du cannabis, tout comme d'ailleurs on gère ici la vente d'alcool. 15 magasins sont prévus au Québec la première année, 100 par la suite. Au début de l'année, on a également décidé du partage des revenus. Le fédéral gardera 25% des recettes, les provinces les trois quarts, parce que ces dernières devront par exemple mettre en place de nouveaux contrôles policiers pour tester les facultés des conducteurs ayant peut-être fumé un dernier joint pour la route. Alors, ceci dit, Alexandra, tout le monde n'est pas encore forcément au diapason. Le Québec, notamment, ne veut pas de culture du cannabis à domicile, alors que le premier ministre canadien insiste, il faut que les particuliers aient le droit de faire pousser 4 plants sur leur balcon.
Pascal, vous parliez de recettes fiscales. Est-ce qu'on a une idée des revenus que le Canada pourrait tirer de la vente de la marijuana ?
C'est difficile d'avoir des chiffres clairs sur un marché qui reste pour l'instant illicite. Selon certaines estimations, les Canadiens dépensent environ 4 à 5 milliards d'euros chaque année pour se procurer cette drogue. La légaliser pourrait donc générer environ 1,5 milliard d'euros dans les coffres de l'État. On calcule là-dedans les taxes de vente sur le produit, mais aussi l'activité économique générée. On pense notamment au salaire des employés à la production, à la vente, les impôts sur bénéfices. Alors pour vous donner un exemple, un des plus grands joueurs sur le marché, Canopy Growth, qui emploie actuellement 700 personnes pour de la marijuana thérapeutique, eh bien, eux, ils ont lancé des offres d'emploi aux quatre coins du pays. Donc, ça voudrait dire que le marché devrait donc beaucoup progresser dans ce secteur.
Pascal Guéricola avec nous depuis Québec. Merci à vous. Merci aux débatteurs Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux.
Allez, à France.
Allez, vous pouvez aller mettre vos maillots de foot, c'est bon. À venir avant 10h, mon invité, Laurent Habib, le patron de l'agence Babel pour parler marque, com et pub. Et tout de suite, le panneau publicitaire qui vous regarde, qui vous reconnaît, qui vous compte, ce sont les nouveaux territoires de la pub.
Excusez-moi, vous parlez français ? Ah, bonjour. Est-ce que vous avez vu, là, il y a un espace pour recharger vos téléphones portables et juste au-dessus, il y a des publicités qui défilent ? Vous n'aviez pas vu ?
Non, pas du tout.
Et là, il y a une caméra, en fait.
Ah, d'accord. Ok.
Vous savez à quoi ça sert ?
Non, pas l'idée. C'est quoi ? Ça sert à quoi ?
Eh bien, c'est pour mesurer l'audience, le nombre de personnes qui s'arrêtent devant la publicité et le temps passé devant la publicité.
D'accord, mais ouais.
Et du coup, on voit si vous êtes un homme, une femme, à peu près quel âge vous avez. Et ensuite, ces audiences-là sont fournies aux annonceurs.
Bah, c'est un peu contre notre autorisation. Genre, on n'a pas d'autorisation, ils n'ont pas d'autorisation pour le faire. C'est quand même une image, la caméra. En plus, on ne le voit pas forcément.
De toute manière, on est suivi de partout, donc
ça fait déjà un moment qu'on sait que les données, elles sont dans la nature. Donc non, ça ne me dérange pas.
Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 20 ans, moi.
Et votre prénom ?
C'est Yann.
Olivier.
La porte C, grand public, se situe sur la voie de droite. Les autres portes D, K, N, O, P, I, se situent sur la voie de gauche.
Nous sommes dans un grand espace sportif, tout près de Paris, où l'on peut assister à des Bonjour. Compétitions de tennis de niveau mondial. Je n'ai pas le droit de dire le nom. Regardez le changement, ce panneau publicitaire est digital et dynamique, c'est-à-dire qu'il vous observe et qu'il vous compte. Selon le résultat, l'annonceur sera prêt à payer plus ou moins cher son espace publicitaire. Oui, la pub, un monde qui a été bouleversé par Internet, est en train d'explorer de nouveaux territoires pour accéder à notre temps de cerveau disponible. On retrouve, près du cours de tennis, notre reporter Anaël Verzo avec Henri Paulet. C'est le fondateur de la start-up qui a conçu ces panneaux d'affichage intelligents. Intelligents, mais parfois vexants.
Henri, là on est devant votre écran d'ordinateur et devant votre caméra surtout.
Oui.
Je me vois.
Je vous détecte en tant que genre féminin. Je suis capable de voir que vous avez... Là, je vous vois même beaucoup plus vieille que prévu. Je ne pense pas que ça soit pertinent.
Donc vous avez là, je vois que vous mettez 43 ans, là.
Ouais, 39.
39.
Ouais, vous avez quel âge ?
34.
On a des écarts de 5 ans. Donc après, vous avez l'attention. Ça, c'est le critère pour nous qui est le plus important pour les annonceurs. C'est-à-dire qu'on sait là, on sait que vous êtes en train de regarder la caméra depuis 10 secondes, d'accord ? Et vous avez un critère, ce qu'on appelle un Face ID.
Un Face ID ?
Un Face ID, c'est votre identifiant. On vous a identifié dans le système.
D'accord. Et alors, en quoi c'est utile ça pour l'annonceur ?
Ah bah, dans le séquencement, le Face ID, c'est quelque chose qu'on va garder entre 20, alors c'est peut-être 20 minutes, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend ce qu'on veut faire par rapport à ça. Donc si, par exemple, vous quittez ce qu'on appelle la scène et vous êtes devant le panneau et vous revenez dans 2-3 minutes, on va savoir où vous êtes revenu. Donc ça vous permet, au niveau de la mesure d'audience, de savoir
que ça l'a intéressé.
Ça l'a intéressé, voilà, c'est ça. Donc là, on se rend compte que pour l'événement, donc ça, c'est des données que j'ai récupérées hier.
Pour cet événement-là,
où on se trouve,
événement sportif.
Il y a eu pratiquement 300 000 vues, 192 000 vues pour les hommes et 104 000 vues pour les femmes.
Donc plus d'hommes que de femmes.
Voilà, tout de suite. Et après, on a une répartition par temps d'attention. Donc on s'aperçoit qu'il y a eu, par exemple, 198 000 vues qui ont duré moins d'une seconde. Donc ça veut dire que là, c'est plutôt un contact. Ensuite, on a entre 5 et 10, on a 10 000 vues. Et un truc qui est vraiment important, c'est plus de 10 secondes, on a 6587.
Alors c'est ça qui compte pour l'annonceur.
Quand on regarde ces données-là, on s'aperçoit que finalement la borne de téléphone, c'est vraiment un axe où on peut positionner beaucoup de publicités ciblées, puisque finalement il y a beaucoup de gens qui sont autour.
Ces publicités numériques, dites intelligentes, se développent à toute vitesse. Fin juin, on aura des panneaux publicitaires bien plus grands, de la taille des panneaux des abribus, dans des magasins Monoprix. Les panneaux, qui seront installés en vitrine, pourront capter l'audience à la fois des personnes qui passent devant, dans la rue, et des clients du Monoprix. Et ce n'est pas tout. Florence Chaffiotte est directrice marketing et digital chez Monoprix.
Ce sont des écrans effectivement full HD, 85 pouces. Bah, c'est assez simple, c'est à peu près la même taille qu'une affiche d'un abribus, qui vont permettre en fait de changer les messages par des boucles de messages en fait au gré de la journée, de la fréquentation et des messages qu'on veut faire passer.
C'est-à-dire que si je vais faire mes courses à 10h du matin, j'aurai pas les mêmes messages que si je fais mes courses à 20h, j'imagine. C'est pas les mêmes clients qui passent.
C'est pas forcément pas les mêmes clients, c'est en tout cas pas les mêmes besoins au même moment. Et effectivement, le message de 20h, si je veux caricaturer le propos, sera peut-être plus centré sur l'apéro, les chips et la bière, parce qu'il y a match de foot. Et le matin, peut-être un peu plus sur les courses dites gros panier, où là, on est plus sur la mère de famille qui va faire ses courses.
Il y a des caméras qui permettent de voir qui passe, de reconnaître le sexe de la personne ?
Non, on n'est pas du tout dans une logique de caméra. En revanche, on est dans une logique de mesure de la performance jusqu'à l'acte d'achat, puisque si en fait on diffuse la publicité d'un annonceur, quel qu'il soit, disons une boisson, un soda, on va pouvoir mesurer l'impact direct de la vente de ce soda sur les ventes de Monoprix. Donc nous avons en fait un partage de nos tickets de caisse anonymisés bien évidemment pour mesurer quel a été l'impact de la publicité sur les ventes de ce soda à un instant T dans le magasin. Et oui, nous fournissons en fait cette donnée de résultats à JC2Co de manière à ce qu'il adapte au mieux ses programmations, fonction des horaires, des emplacements, des clients et de leur mode de consommation.
Du coup, les clients seront informés du fait qu'il y a une analyse des tickets de caisse ou c'est quelque chose qui est confidentiel et...
C'est parfaitement anonyme. Donc, ce qu'on analyse justement à cet endroit-là, ce sont bien les tickets de caisse et pas votre ticket de caisse avec votre nom. Je ne sais pas qui vous êtes. Donc moi, ce que j'analyse là, ce sont vraiment des données business et pas des données clients. Donc il n'y a pas de sujet autour de l'anonymisation de la donnée d'un client.
Là, on parle des espaces privés, même si le fait que les panneaux soient situés en vitrine leur permet de voir la rue. Et dans les villes, qu'en est-il ? Albert Asseraf est directeur stratégie data et nouveaux usages chez Deco.
Ah bah, très près de nous ici, nous avons le Valois, nous avons Neuilly-sur-Seine, nous avons ici les Moulineaux. Si vous circulez sur l'esplanade de la Défense par exemple, qui est un espace totalement piéton, vous avez une cinquantaine d'écrans digitaux. Quelques-uns ont des capteurs qui sont purement des capteurs quantitatifs, c'est-à-dire que nous ne savons pas qui passe, nous ne savons pas si c'est un homme, si c'est une femme.
Mais actuellement, vous ne pouvez pas en savoir plus grâce à ces capteurs, parce qu'il y a des start-up qui ont développé des technologies qui permettent d'avoir plus d'informations, de savoir par exemple si c'est un homme, une femme ou un enfant, d'évaluer également l'âge de la personne qui passe devant le panneau publicitaire.
Alors là, vous parlez en effet des technologies de reconnaissance faciale. Nous n'installons strictement jamais ce type de technologie dans nos mobiliers. D'abord parce que nous sommes souvent sur l'espace public, dès lors que l'on parle des villes. Le Grenelle 2 dit que toute mesure d'audience sur l'espace public doit passer par une autorisation de la CNIL. Donc nous sommes soumis sur l'espace public à une réglementation spécifique, ce qui n'est pas le cas dans les lieux privés. Ce n'est pas automatiquement par des capteurs que nous avons ces informations, ça peut être grâce à l'achat de bases de données qui nous disent à tel moment, voilà les profils de population qui sont observés dans tel ou tel quartier ou tel secteur.
Alors c'est une technologie qui est en train de se développer. Vous pensez arriver à installer combien de panneaux de ce type-là en France ?
Alors, sur la part du digital dans une ville donnée, nous avons 15 000 abribus à Londres. 1000 ont pour vocation à être digitalisés. Et nous en sommes pratiquement arrivés à cette installation. Donc on voit le rapport, 1000 écrans digitaux, 14 000 en communication traditionnelle. Notre objectif est de les développer parce que nous entrons là dans une communication moderne. Et le développement se fera aussi par des données de plus en plus sophistiquées que nous obtiendrons sur les quartiers, sur les personnes qui se déplacent, sur les personnes en mobilité, pour que chacun puisse piloter sa communication de manière très sophistiquée et ciblée. C'est une manière aussi de faire ce qu'on appelle du drive-to-store, c'est-à-dire le fait...
Drive-to-store.
Oui, drive-to-store, c'est-à-dire le fait de conduire les gens vers un magasin dès lors qu'il y a une promotion ou un produit qui leur paraît intéressant.
Alors, aura-t-on bientôt plus que des panneaux digitaux dits intelligents dans les rues et les magasins en France ? Les éclairages d'Isabelle Bordry, cofondatrice de l'entreprise Retency et spécialiste de la publicité data. Isabelle Bordry, pourquoi est-ce qu'autant d'entreprises en ce moment vont sur ce marché-là ?
Parce que c'est une vraie demande des annonceurs. Internet et la publicité sur le digital représentaient 35% des investissements publicitaires. Et donc le digital est passé aujourd'hui devant les investissements télé. Et donc pour capter une partie de cette croissance et pour continuer à préserver ses parts de marché, l'affichage et notamment l'affichage dynamique se transforme.
Quelle plus-value pour les annonceurs ? Est-ce qu'il y a une rentabilité plus importante avec ces publicités dites intelligentes ?
Pour les annonceurs, pour qu'il y ait une véritable plus-value, ils ont besoin d'avoir des données beaucoup plus fines, notamment sur l'audience, et avoir la capacité de pouvoir acheter des réseaux d'affichage de la même manière qu'ils achètent aujourd'hui Internet, en fonction d'une cible qui est comptée à la volée et à un instant T à côté de ce panneau d'affichage.
Et est-ce qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus rentable ? Ça veut dire combien, si on chiffre ?
C'est un changement de modèle économique. Aujourd'hui, quand on reprend les chiffres d'investissement publicitaire l'année dernière, donc il y a à peu près 11 milliards d'euros qui ont été investis dans la publicité en France. Aujourd'hui, les pôles de croissance à deux chiffres restent dans l'univers du digital. Si l'affichage et les réseaux d'affichage veulent accélérer leur croissance, ils ont tout à fait intérêt à non seulement rendre leur écran numérique pour diffuser de la vidéo, mais aussi les rendre plus intelligents en termes de data.
Elle vous compte, elle vous regarde, les nouveaux territoires de la pub, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Dans le studio 521, une figure de la pub s'est assise avec nous. Bonjour Laurent Habib.
Bonjour.
Le patron de l'agence Babel, également le président de l'association des agences de communication, l'AACC, c'est votre syndicat professionnel, c'est
absolument,
ça ?
C'est ça.
Laurent Habib, on vient d'entendre le reportage d'Anaël Verzo. Est-ce que cette personnalisation de la pub à grande échelle, aussi bien sur Internet, dans le monde virtuel que dans le monde réel, c'est le but ultime des publicitaires aujourd'hui ?
Bah, disons que le digital a ouvert en fait un nouvel élan à la communication, qui est que maintenant c'est possible de parler à chacun pour moins cher que parler à tous. Ce qui fait que pour un publicitaire c'est extraordinaire et pour les marques c'est extraordinaire. Avant on prenait un espace dans un média en espérant qu'il ait beaucoup d'audience pour essayer de parler à tous et on savait qu'il y avait un effet de déperdition très grand. La promesse ultime du digital, c'est de s'adresser au bon moment, à la bonne personne, avec l'argument qui convient et d'une certaine manière de faire qu'il y ait une efficacité totale de votre message publicitaire. Alors malheureusement, cette évolution extraordinaire, elle comporte aussi des effets négatifs très importants, des effets sur l'éthique, des effets sur la maîtrise de la data et ce qu'on peut faire de la data personnelle.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous êtes en train de nous décrire un monde, donc, et on l'a bien vu dans le reportage, où cette pub, elle s'adresse à nous, on sent que nous sommes pistés. Mmh. Est-ce que vous ne craignez pas un rejet avec cette pression publicitaire qui devient toujours plus forte ?
Alors, c'est effectivement la question du rejet de la pub est aujourd'hui une question extrêmement importante. Si vous demandez à vos enfants, tous les jeunes ont aujourd'hui des ad-bloqueurs. Il y a pas mal de...
Des bloqueurs de pub,
c'est
oui.
C'est ça, les ad-bloqueurs, c'est les bloqueurs de pub qui permettent de... Alors moi, je fais souvent des cours et vous avez 95% des gamins qui font des études de communication qui ont des ad-bloqueurs. Donc ça vous donne une idée de la situation d'opposition qu'il y a avec la pub. Et en même temps, une bonne pub intéressante, bien faite, dans un contenu affinitaire, c'est-à-dire un contenu qui n'est pas un contenu trop différent et donc qui, d'une certaine manière, converge avec l'intérêt que vous avez. Quand vous êtes en train de regarder de la mode, vous avez un contenu de mode. Bon, et il faut reconnaître qu'on peut avoir une efficacité publicitaire décuplée. Donc en fait, toute la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver nos nouvelles marques de ce monde digital pour vous, les médias, parce qu'il faut trouver des nouveaux équilibres de revenus, pour nous, les agences, pour bien préserver les intérêts des marques. Et je pense que du côté des acteurs du digital, il y a un effort absolument nécessaire pour faire évoluer par exemple la maîtrise de la data et ce qu'on en fait, faire évoluer ce qu'on appelle la brand safety. On parle beaucoup en anglais, mais c'est le contexte d'environnement. C'est la sécurité qu'on apporte au message de la marque pour que la marque ne se retrouve pas avec des messages qui sont contraires à son éthique, contraires à son...
C'est-à-dire, je fais une pub pour des spaghettis...
Des pubs pour les enfants, et vous avez un contenu qui est un contenu pour adultes seulement, et vous avez une marque qui est pour l'amour et le bien-être, et qui est à côté d'un contenu anti-islamiste, ou islamiste, ou antisémiste, ou sémite.
Laurent Habib, vous étiez les rois de la publicité. Les agences de pub, c'était les Mad Men, mais aujourd'hui, les Mad Men, ils ont perdu face au Google, au Facebook, au GAFA. Alors, sont eux qui gagnent tout en ce moment.
Non, Google, Facebook sont en train de prendre une part de marché extrêmement importante, et d'autant plus importante qu'ils ont 80% du digital qui lui-même est en train d'être plus important que la télévision. Donc ça vous donne une idée de l'accélération extraordinaire. En fait, les Mad Men ne sont absolument pas mis à l'écart de ce sujet. Ce qui est mis à l'écart, c'est les médias traditionnels qui sont fragilisés et c'est les interfaces qu'on appelle les agences médias qui sont fragilisées parce que elles ont un pouvoir de préconisation qui est moindre que l'algorithme. Nous, on est du côté des marques. Et en fait, les marques, elles ont besoin, dans ce contexte, d'affirmer leur singularité, leur différence. Donc, elles ont besoin de gens qui construisent cette originalité de la marque, cette façon particulière qu'elle a de parler, de s'exprimer, pour qu'elle continue d'avoir une valeur particulière. Parce que quand vous êtes sur Facebook et que vous passez une seconde et demie sur un contenu de marque, quand vous êtes sur Instagram et que vous passez 2 secondes sur un contenu de marque, vous avez, au fond, une difficulté, c'est qu'est-ce qui reste de la marque ? Est-ce que la marque, c'est plus que les produit qu'elle vend, ou est-ce qu'elle arrive encore à vendre son pouvoir symbolique ? Or, toute la valeur vient de ce pouvoir symbolique. Donc, nous sommes plus importants que jamais. Si vous permettez, j'aurais tendance à dire que plus que jamais, notre économie repose sur la défense du capital immatériel, de cette valeur intangible de la marque, de cette valeur symbolique, et qui la défend si ce n'est quelques créatifs dans des agences qui essayent de faire que la marque soit originale.
Il y a un tsunami qui est en train de vous arriver et qui va peut-être mettre à plat toute cette démonstration, et on entend la passion que vous avez pour votre métier, mais les interfaces vocales, là, les Google Home, les Amazon Echo, les Siri, bientôt la pub va plus servir à rien.
Alors ça, c'est très important et c'est effectivement une menace majeure pour les marques, donc pour notre économie. Et une fois encore, il y a un lien entre la présence et la défense des marques et toute l'économie européenne.
Pourquoi ? Parce que ça veut dire, si on a des marques, on a des usines, c'est ça ?
Si on n'a plus de marques, on n'a plus de valeur spécifique dans l'économie européenne. Et à ce moment-là, on est dans une économie de la fonctionnalité pure. On est dans une économie dans laquelle on produit en Chine. C'est ce que j'appelle le C2C. On produit en Chine et on va directement au consommateur. Dans cette économie-là, la valeur de l'économie européenne est complètement mise à plat. Parce que vous n'avez plus qu'une économie nostalgique. nostalgique. Vous venez en France pour aller voir la Tour Eiffel et pour aller dans un Airbnb, mais vous n'avez plus de valeur. Et si vous voulez de la valeur, il faut des marques de luxe, il faut des marques d'automobiles, il faut des marques de produits alimentaires. Et donc, la défense des marques est très importante. Donc, cette équation est fondamentale pour tous ceux qui nous écoutent, parce que ne pas défendre les marques, c'est laisser tomber les éléments sur lesquels se construit la valeur en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Alors, pour défendre les marques, il faut se retrouver dans une situation, c'est que les marques continuent d'avoir de l'importance dans le comportement du consommateur. Or, quand vous avez une intelligence artificielle qui est votre interface vocale, donc c'est l'interface vocale, on le voit, c'est une petite boule ou une enceinte qui se retrouve au milieu de votre salon, dans votre cuisine ou dans votre voiture.
Et je lui dis, achète-moi des spaghettis.
Si vous dites, achète-moi des spaghettis, c'est ce qui s'est passé pour les piles. On a dit, achète-moi des piles et Amazon a pris 30% du marché des piles en un an. Pourquoi ? Parce qu'il ne viendrait à l'idée de personne de se battre pour acheter des Energizers plutôt que une autre marque. Et donc, en fait, quand vous achetez un aspirateur, vous pouvez dire, je veux un Dyson parce que vous faites partie du monde merveilleux des bobos parisiens, mais en réalité, la plupart des gens veulent acheter un aspirateur pas cher, et Amazon va vous proposer l'aspirateur le moins cher, combiné avec la note des internautes. Et en fait, la vérité, c'est que Amazon va choisir celui avec lequel il a fait le pari publicitaire.
Le contrat pub le plus intéressant.
Mmh. En tout cas, c'est le danger. C'est-à-dire que progressivement, toutes ces interfaces deviennent des médias. Et qu'on paye comme on a payé pour être en tête de gondole dans les hyper dans les années 80, et on sait ce que ça a fait sur le monde des marques et le nouveau rapport de force entre la distribution et les producteurs, et bien on va connaître cette nouvelle révolution pour une partie très importante de notre consommation, qui est la consommation la plus simple, la plus fonctionnelle, la plus rapide, la moins chère, celle de tous les jours, et sur laquelle les marques vont disparaître au profit du choix de votre intelligence
artificielle. Quand on questionne les Amazon et Google, ils nous disent, mais non, vous allez référencer. C'est tout ça, c'est vous le consommateur qui allez choisir et pas notre intelligence artificielle, vous aurez mis vos critères.
En fait, c'est marrant parce qu'il y a une différence entre ce que nous donnent comme possibilité les interfaces et la réalité. Par exemple, vous avez vu qu'en ce moment, on nous donne la possibilité de refuser de donner nos données. Mais qu'est-ce qu'on a fait tous ? On a cliqué sur la croix en disant qu'on n'avait pas le temps d'aller regarder toutes les données de confidentialité. Demain, vous allez donner quelques marques de préférence, vous allez réitérer votre préférence sur quelques marques, mais c'est comme les applications. Aujourd'hui, on sait qu'on utilise 5 applications dans un téléphone. Demain, vous aurez fait le choix de quelques marques dans votre interface vocale, mais pour toute votre consommation, c'est l'interface qui choisira pour vous.
Cette vision de l'avenir par Laurent Habib, le patron de l'agence Babel. Merci d'avoir été sur France Inter.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, on avance. Une question de Christina qui s'étonne de voir ses collègues parier sur les résultats de la Coupe du Monde. Peut-on organiser des jeux d'argent sur son lieu de travail ?
Christina, il faut s'y résoudre tous les 4 ans, voire tous les 2 ans si on ajoute l'euro. Vos collègues se prennent pour la Française des Jeux. Vous recevez des tableaux Excel à remplir dans 2 heures, au hasard. L'idée est de savoir qui de l'Australie ou de la France va gagner et par combien de buts. Rebelote pour la Croatie face au Nigeria ou la Tunisie contre le Panama, plus connu pour ses papers que pour la qualité de son jeu offensif. À vous d'accepter d'y laisser quelques plumes. Des dizaines d'euros, 2 tickets resto. Les mises ne sont pas censées vous faire gagner un pognon de dingue. En fait, Christina, rien n'interdit formellement ces paris entre collègues. Il n'y a pas de jurisprudence sur ce phénomène épisodique. Le tout, c'est de ne pas jouer pendant les heures de bureau, ni de transformer l'open space en bar PMU. L'organisateur de ces paris sportifs n'a pas le droit de prendre une commission. Et mieux vaut que les règles soient connues dès le départ. Combien de parieurs participent ? Qui stocke l'argent ? Qui vérifie ? Pour la tenue des scores, l'internet est passé par là. Il existe toute une série de sites qui enregistrent les noms des joueurs et établissent l'ordre des gagnants. Ça limite les litiges et les engueulades entre collègues.
Mais est-ce que l'entreprise peut interdire les jeux d'argent ?
Oui, elle peut le faire dans le règlement intérieur, mais c'est assez rare, sauf dans les clubs de foot. Il est formellement interdit aux joueurs et aux staff engagés dans une compétition de miser de l'argent. Le vrai souci pour les directions des ressources humaines, Christina, ce ne sont pas les paris, mais bien le temps passé devant son ordi à regarder des matchs pendant les heures de boulot. C'est pas terrible pour la productivité, ni pour les salariés qui peuvent perdre leur place au travail. On travaille. Un fan du Paris Saint-Germain n'aurait jamais dû suivre la Coupe de la Ligue PSG Marseille. Sur son smartphone, il a été licencié. Pareil pour deux vigiles qui ont détourné une caméra de surveillance pour regarder France-Allemagne il y a 4 ans au Brésil. Tous les métiers ne sont pas compatibles avec ce type de distraction. Même s'il existe une tolérance de la part des employeurs, surtout quand c'est la première fois que des salariés sont pris en défaut. D'ailleurs, plutôt que d'adopter une attitude répressive, certaines entreprises prennent les devants et utilisent le mondial pour fédérer leurs troupes. Installer une télé à la cafette, c'est l'occasion de disserter sur un 4-3-3. En revanche, pour les paris, si les managers peuvent aussi participer, ce n'est pas la direction de les organiser. Tout ça doit rester, bien entendu, purement volontaire.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Vous pouvez écrire à Sandrine, ça se passe sur la page franceinter.fr. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de notre invité, Laurent Habib. Et puis bien sûr, vous pouvez nous podcaster.